On va parler de boxe avec notre ami Bernard Barré. Triste nouvelle aujourd'hui, le monde de la boxe québécoise est en deuil. Régis Lévesque est décédé à l'âge de 85 ans. On savait très malade, on savait que c'était une question de temps avant qu'il décède. Ben, c'est maintenant chose faite. On en parle avec Bernard Barré. Salut Bernard.
Salut Danny.
Bernard, c'est quand même un monument de la boxe au Québec qui décède. Régis Lévesque à l'âge de 85 ans.
Ouais, c'est un bon mot que tu as là, un monument. C'est que, ben, Régis, c'est un personnage. Il a tellement travaillé fort, lui-là, pour la boxe, qu'à un moment donné, là, moi, j'ai eu le bonheur de l'avoir parmi mes amis, mes connaissances. J'ai eu beaucoup d'activités avec lui à un moment donné, surtout au moment où il a travaillé pour Interbox. Donc, c'est à moi son supérieur à ce moment-là. Il a travaillé les 3 dernières années avant de prendre sa retraite civilement pour Interbox. Et c'était Yvon Michel qui avait réussi à le faire engager à ce moment-là. Donc, je l'ai connu plus, mais je le connaissais déjà parce que je veux pas. J'avais eu affaire avec à l'époque que j'étais à la Fédération québécoise de boxe olympique. Donc, pour moi, c'était devenu un ami. Puis, j'ai eu beaucoup de plaisir, surtout que quand tu voyais Régis Lévesque, tu voyais Didier Mont. Ils étaient
Ben
toujours
ouais, c'est
ensemble.
clair.
C'était toujours un gros party, là. Et puis, à chaque fois, les conférences de presse, on se rappelle, Régis faisait beaucoup de local. Hein. L'international, c'était exceptionnel. Donc, lui, il y avait des rivalités, le bon, le méchant. Ça, il partait avec ça, le bon, le méchant. Montréal, Québec, Montréal, Toronto, Sherbrooke, Trois-Rivières. Il trouvait toujours une manière de virer ça. Et puis, après ça, ben, avec ses publiés reportages dans le Journal de Montréal, c'était tellement intéressant. On lisait ça. On savait que c'était sa ligne. On savait que c'était pas tout le temps vrai. On savait que c'était exagéré. Mais on avait tout le temps hâte au lendemain pour voir c'est à quoi la suite. C'était vraiment pour le marketing. Il était exceptionnel pour le milieu de la boxe. Il a intéressé énormément de gens à notre sport. Et puis, lui, c'est un mordu de ça. Moi, j'ai déjà été chez lui, puis je voyais tous ces montages qu'il faisait pour la publicité, puis il découpait le visage des boxeurs. Puis, en tout cas, c'était très rudimentaire, pour bien le dire. C'était à son époque. Lui qui a commencé comme promoteur en 1959 avec Robert Grégoût. Et par la suite, ben là, au fil des années, on l'a vu avec les Donato Paduano, les Fernand Marcotte, les Gaëtan Hart. Et puis les Dave Hilton. Donc, tu sais, il c'est vraiment la famille Hilton. Il s'est vraiment impliqué beaucoup. Et c'est quelqu'un qui avait un gros ego. Lui, il a toujours dit que je suis le meilleur. Et il a
Oui,
toujours
ça
cru.
c'est vrai, ça c'est vrai. Je me rappelle, moi, d'Yvon Michel, quand il disait qu'Yvon Michel était. C'est parce qu'il était dépassé, le gars. Moi, je me rappelle quand vous avez fondé Jim, puis avant qu'Yvon Michel tombe avec Interbox, c'était là-dedans aussi. Comment de fois qu'on a fait des choses, c'était vraiment drôle, là. Mais à quelque
Ouais,
part.
ben, c'est ça.
Hein?
C'était tellement gros que
Ouais.
finalement, les gens ne prenaient pas vraiment au sérieux à ce moment-là. Il a fini, c'est ce qui est plate un petit peu, il a fini un peu blasé. Ses dernières promotions, là, que je me rappelle, là, de mémoire, le combat Alston Wallet, c'était terminé rapidement quand Alston avait passé Wallet knock-out au premier round. Par la suite, il avait essayé de repartir la carrière de Dave Hilton.
Lui,
Je me
il
rappelle d'un
comprenait pas
combat.
qu'Hilton était brûlé. Je me rappelle très bien. Il comprenait pas que les gens
Bon,
voulaient rien savoir. Lui, tu sais, quelque part, c'est normal un peu, les gens. Ce qu'il avait fait, c'était inacceptable. Puis lui, il comprenait pas ça,
Non, mais lui, bien entendu, Régis
là.
voyait juste le côté sportif de l'affaire. Il avait essayé avec Adam Green. Je me rappelle d'un combat avec Adam Green. Donc, ça finit un petit peu, il a fini un peu amer de sa passion. Lui qui a eu connu des grands moments, là, des grands combats, là, hein, qui a pensé à la carrière d'Eddie Mello, là,
Ben
puis
oui,
à
c'était
quel.
ça, c'était justement ça. Lui, sa conquête, c'était Eddie Mello, hein. Sa grande découverte,
Bon,
c'était Eddie Mello,
absolument.
hein.
Eddie Mello, là, c'était pour lui là, le king des kings, c'était la cerise sur le sundae. Il avait de la misère à dormir tellement qu'il était excité. Mais tu sais, quand tu regardes ça, Eddie Mello, là, il s'est battu 3 fois pour le championnat canadien. Le championnat, écoutez-moi bien, là, le championnat canadien, les 3 fois, il a perdu. Est-ce que ça nous donne une idée un peu du génie de marketing que Régis Lévesque était? pour nous faire croire qu'Eddie Melo, c'est un champion du monde. Mm. C'est rendu, c'est ça, là. Tout le monde croyait à ça. Eddie Melo, oh, tabarnouche, Eddie Melo. Et le gars-là s'est battu trois fois, champion canadien, a perdu trois fois.
Ouais.
Aïe, aïe.
Ouais, 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 ouais. On dit que, je regarde Jean-Paul Chartrand sur l'hommage que Jean-Paul Chartrand rend sur le site actuellement d'RDS. Il dit qu'il a démarré avec 20$. Hein?
Il y a quoi?
Il a démarré avec 20$, Régis Lévesque. Il avait vraiment pas d'argent.
Ah oui, absolument. Absolument. Régis, là, c'est un jeune boxeur amateur. Il a fait un combat, deux combats sur le pro, il les a perdus. Mais lui, c'est un maniaque de ça. Puis en 59, ce qui était le déclic, c'est que Robert Thiégot a cru en lui. Robert Thiégot est un poids lourd qui tranquillement montait dans le système. Et à partir de Robert Thiégot, ben, il s'est fait une réputation. Puis il a fait des bons coups, il en a fait des mauvais. Ouais. Mais en tout cas, il a dit en tout temps, il a été divertissant. Mm. C'était jamais plat.
Ah,
c'était moi, comme je te dis, j'ai voyagé avec lui, j'ai travaillé avec lui. Et puis c'est sûr qu'on était pas fini pour avoir bien du fun.
Là. Ben, c'est clair. Lui et Thierry Aymon, c'était incroyable les shows qu'il faisait là, au début des années 2000 à 110%, je me rappellerai toujours. Là. Ils vous critiquaient, vous autres, Yvon Michel et ainsi de suite. Dave Hilton, tu as parlé des frères Hilton à quelque part. Est-ce que tu sais, les frères Hilton ont dit tout le temps que s'il y aurait eu un peu si au deuxième étage ça aurait été un peu plus solide, il aurait été champion du monde. Dave l'a été. Mathieu l'a été, mais a perdu tout de suite immédiatement après, après son premier combat. Penses-tu qu'il aurait dû. Lui, sa job, ça aurait dû décontrôler un peu comme Yvon Michel fait? C'est un peu.
Oui, ouais, mais rendu là, les Hilton étaient déjà rendus avec Don King.
Ouais,
okay. Ils ont échappé rapidement. Puis là, c'était bien difficile. Là, Régis devenait secondaire dans le développement des Hilton. Tu as parlé de Mathieu qui était champion du monde. On se rappelle que Dave l'a été aussi une fois contre Tobella. Il a gagné contre Bingham Tobella. Et par la suite, ben là, tout a déboulé sur sa tête, là, compte tenu de ses agissements à l'extérieur du ring. Mais c'est sûr que Hilton, par rapport à ce que ça prend. On révèle tout le monde là, qu'il y a des grandes carrières. Et on ne va pas renier le fait qu'il y en a deux qui ont été champions du monde. Ouais. Mais c'est rien à comparer avec ce qu'on prévoyait dans le cas. Mais la pyramide s'est effondrée, là. C'est le château de cartes s'est effondré. Et puis ça, c'est sûr que pour Régis s'est rabattu à ce moment-là sur Eddie Melo. Et il a fait beaucoup, beaucoup de millages avec Eddie Melo. Et on a eu beaucoup de plaisir à le suivre dans toutes ces histoires parce que comme raconteur, surtout dans les conférences de presse, il y avait beaucoup de gens, lui, il invitait des gens à conférences de presse, il y avait beaucoup, beaucoup de public parce que les gens savaient qu'il était prêt à avoir des punchs. Ça Régis, il était pas donné. Il arrivait là avec sa napkin, là, il avait écrit des affaires sur une napkin le midi, là, puis là, il nous lançait des idées comme ça. Puis à un moment donné, il y avait un punch à quelque part. C'est sûr qu'on pourrait avoir bien du fun. Puis c'est ce qu'on va retenir de lui. C'est un passionné. Il a fait énormément pour la boxe professionnelle, parce que lui, c'était son credo. Le créneau, c'était la boxe professionnelle. Donc, on ne peut pas lui enlever ça. C'est un phénomène un personnage.
Okay. Son héritage?
Ben, l'héritage, lui, c'était surtout de la boxe locale.
Okay, ouais.
Donc, quand Interbox est arrivé avec des millions, puis qui ont visé la boxe internationale, puis qui sont allés chercher du gros calibre, ben, c'est sûr que là, la game a changé. Aujourd'hui, les gens ont de la difficulté à revenir en arrière. Tu sais, quand ils ont goûté à la ligne, les lignes majeures, parce que c'est un peu ce qu'Interbox a réussi à produire, puis par la suite, Groupe Yvon Michel, et maintenant AF de Tagum, qui produisent aussi des bons athlètes. Mais là, c'est sûr que pour les gens, l'héritage de Régis, localement, c'est plus dur à vendre, là. Mm. Tu sais, quand on a goûté aux ligues majeures, c'est comme les Expos de Montréal au baseball, là. Tout le monde dit, on rêve qu'ils reviennent, mais on n'accepterait pas un club dans la Ligue internationale, admettons, là, on va être dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, on va être dans la Ligue majeure. Donc, c'est difficile de faire un pas en arrière. Puis la boxe locale est plus dure à vendre compte tenu, justement, du succès qu'on a en boxe internationale.
Puis là, terminant, Bernard, Costo-Clayton, match nul, ça veut dire quoi? Lui, il a été convoqué seulement une semaine. Ça a dû jouer contre lui, hein, seulement qu'une semaine. Non?
Il a été convoqué, mais je veux dire. Depuis plusieurs semaines, on l'avait dit, on se doutait que le gars était pour avoir un problème de visa. Donc, on a dit, oui, c'est substitué. Ça fait qu'il a eu la chance de bien se préparer. D'ailleurs, il a fait un bon combat. Il a juste, tu sais, il arrive avec un combat nul, là. Oh, là, tout le monde a su qu'écoute, comme son adversaire, il ne faut pas oublier, il a déjà été champion du monde dans la division de poids inférieur à 140, mais il a été champion du monde. Donc, c'est certain que il vient de prouver qu'il est capable de tenir son bout dans cette ligue-là. Et ça, c'est un bon point, c'est un bon pas en avant. Mais il était tellement proche de gagner, là. Il aurait fallu qu'il en donne un petit peu plus au début, puis un petit peu plus à la fin. Mais, tu sais, on dirait qu'il a longé les câbles, il a bien boxé, il était beau. Il était super beau boxeur. Mais il manquait la rage. C'est le petit coup de plus, là. Celui qui veut gagner, là, qui a le couteau entre les dents, et qui mord dans son protège-dent. Mais ça, c'est le bout qui a manqué. Fait que c'est certain que il a marqué des points. Parce que là, de notre côté, il est dans cette ligue-là, il est dans le top 10 mondial. Mais c'est tellement fort, le Danny, là, chez les mi-moyens, là, avec les Errol Spence, Terence Crawford. Là, tu as Manny Pacquiao, mais Pacquiao, c'est sûr que tu peux le poigner à un moment donné, demain, il va être vieux, là, il va finir par être vieux. Mais Crawford puis Spence, t'imagines les phénomènes. Fait que c'est sûr que pour Clayton, là, il va falloir qu'il y ait un chemin qui s'ouvre à un moment donné. Mais dans le moment, ça va être difficile.
Ouais. Maintenant, merci beaucoup. On se reparle dès que la boxe l'exige.
Parfait. Bonne émission, Danny.